France Inter.
Citoyens et citoyennes,
camarades,
compagnons,
travailleuses, travailleurs,
françaises, français.
Et tous les autres, bienvenue dans Enquête de politique. Les nouvelles venues en rafale ces derniers jours d'Amérique sont vertigineuses et nous démontrent que la démocratie n'est pas chose acquise. Un des éléments constitutifs de la démocratie, c'est l'état de droit. Et l'état de droit est bafoué quotidiennement aux États-Unis depuis l'élection de Donald Trump.
Enquête de politique. Thomas Legrand sur France Inter.
Ce soir, qu'est-ce que l'état de droit ? Est-il menacé en France ? L'état de droit, voilà bien un concept très utilisé dans le débat public et qu'il convient d'expliquer et de préciser. L'état de droit n'est plus respecté en France, votre projet porte atteinte à l'état de droit, les obsédés de l'état de droit confisquent la démocratie en entravant les élus du peuple. Voilà le genre de phrase que l'on peut entendre en ce moment s'agissant des libertés publiques, de la répression des manifestations ou de l'action de la justice qui réfute parfois des décisions politiques ou condamne des élus. Que recouvre cette notion ? Bien plus que le simple respect de la Constitution et des normes internationales, ce concept, directement issu du libéralisme politique, affirme que ceux qui nous gouvernent sont soumis au droit. Mais au fond, l'idée de l'état de droit vient de loin, de bien plus loin que la Révolution. On peut en voir les prémices, il n'était pas encore nommé comme cela, quand Machiavel ou Jean Bodin, au XVIe siècle, établissent que la politique n'est pas l'affaire de Dieu, mais des hommes. C'est ce que l'on développe dans un autre numéro d'Enquête de politique consacré au souverainisme, à la souveraineté, que vous pouvez bien sûr télécharger. Donc, à partir de ce constat, la politique est une affaire profane, ceux qui nous gouvernent doivent être soumis eux-mêmes à des règles. L'état de droit existait donc aussi sous l'Ancien Régime. Aujourd'hui, bien sûr, la notion d'état de droit a pris une autre acception et une autre dimension. L'état de droit est l'ensemble des règles qui limitent ou encadrent le pouvoir de ceux qui ont le pouvoir. Mais ce qui est compliqué et piégeux avec cette notion, c'est qu'il s'agit aussi d'un état d'esprit, d'une façon d'envisager le pouvoir. L'état de droit est-il menacé en France ? Cette interrogation est légitime parce que depuis deux ou trois décennies, sous la pression de l'extrême droite d'un côté ou du terrorisme de l'autre, l'idée que l'arbitrage entre la sécurité et la liberté, et on verra que cette balance n'est pas forcément pertinente, penche plutôt pour toujours plus de sécurité. Plus de sécurité, c'est forcément plus de latitude pour l'exécutif, donc moins d'état de droit. Pas si simple. Mais comme la sécurité, c'est aussi ce que semble réclamer le peuple, certains voient dans la défense acharnée du principe de l'état de droit une possible entrave à la démocratie. Nous sommes là, avec ce concept d'état de droit, au cœur de la crise de confiance, de la crise de la représentativité que traversent nos sociétés démocratiques. La France est une démocratie vivante, mais le risque de la pente illibérale existe, bien au-delà de ses partisans évidents. C'est ce que nous allons explorer jusqu'à 19h. Aujourd'hui, c'est une émission un peu conceptuelle, mais c'est important parce que, pour bien apprécier tous les débats qui nous agitent, il faut être au clair avec les concepts utilisés par les acteurs de ces débats. Et pour cet exercice de clarification, nous avons deux invités avec nous. Denis Barranger, professeur de droit public à l'université Panthéon-Assas Paris 2, auteur entre autres de « Penser la loi, essai sur le législateur des temps modernes » chez Gallimard. Et Raphaël Kampf, avocat, activiste aussi, auteur de « Ennemi d'État » aux éditions La Fabrique et de « Violence judiciaire à la découverte ». Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour Thomas Legrand.
La liberté des hommes qui sont soumis à un gouvernement est d'avoir pour la conduite de la vie une certaine règle commune qui ait été prescrite par le pouvoir législatif, qui a été établie en sorte qu'ils puissent suivre et satisfaire leur volonté en toutes les choses auxquelles cette règle ne s'oppose pas. John Locke, Traité du gouvernement civil, 1690.
Alors messieurs, on va commencer par une courte définition. Chacun d'entre vous va me définir l'état de droit. Denis Barranger, qu'est-ce que l'état de droit pour vous ?
Alors, dans tout État, il y a du droit, parce que l'État, c'est une machine à créer et à appliquer du droit. L'État de droit, ça reflète une certaine qualité de la relation entre l'État et le droit. En résumé, il faut un État soumis au droit. Je ne connais pas de meilleure définition que celle de la Constitution allemande, la loi fondamentale, qui dit en substance qu'il y a État de droit quand le législateur est lié par la Constitution et que les autres pouvoirs, exécutifs et judiciaires, sont liés par la loi.
Donc c'est une définition très large, Raphaël Kempf. J'imagine qu'en votre qualité d'avocat et défenseur de liberté, vous avez peut-être une définition un peu plus pointue.
Alors l'état de droit, pour moi, c'est la situation dans laquelle l'État doit respecter la loi, doit respecter le droit, et la situation dans laquelle ses agents doivent respecter la loi et le droit. Et j'utilise souvent cette expression dans le cadre de mon activité d'avocat, dans des plaidoiries, pour essayer de démontrer, dans des cas particuliers, les situations dans lesquelles des représentants de l'État n'ont pas respecté le droit ou la loi.
À vous entendre, finalement, c'est la Constitution et toutes les lois qui régissent l'action politique, finalement. Pourquoi on ne dit pas simplement « il faut respecter la Constitution et la loi », ce qui paraît la moindre des choses et basique, Denis Barranger?
Au-delà de ce que j'ai dit tout à l'heure sur la relation entre l'État et le droit, l'État de droit, ça traduit une certaine qualité de la production et de l'application du droit. Si nous disions en Angleterre ou aux États-Unis « rule of law », nous mettrions à l'intérieur de ce mot « valise » qu'est l'État de droit, la non-rétroactivité, la sécurité juridique, ce que vient de dire Raphaël Kempf, c'est-à-dire l'obligation pour tous les organes de l'État d'appliquer le droit de manière correcte. Il y a en réalité beaucoup de substance à l'intérieur de cette définition. C'était très bien de commencer par John Locke, parce que John Locke, c'est celui qui a dit dans la modernité politique que le bien et le mal étaient déterminés dans la société par le législateur. Donc il y a une charge morale dans l'application du droit qu'inclut cette idée d'état de droit.
Alors ça veut dire que c'est toutes les lois, tout le droit, la Constitution, les règles internationales auxquelles la France, pour parler de nous, a souscrit, plus un état d'esprit, plus une façon de gouverner, c'est ça ?
Dans le monde moderne, la soumission à la Constitution fait partie de l'exigence de morale politique de nos concitoyens. On n'imagine plus guère d'État dans lequel ça n'existe pas. Ce qui est arrivé par ailleurs, c'est que beaucoup de droits fondamentaux, d'exigences sur la qualité de l'action juridique de l'État se retrouve désormais dans des traités internationaux, de sorte que ce que les techniciens appellent la conventionnalité s'est greffé là-dessus. La conventionnalité, c'est l'obligation de respecter le droit international par la loi nationale et par les actes réglementaires de l'État.
Alors, vous dites aussi, Denis Barranger, et ça peut paraître étrange pour nos auditeurs, vous dites aussi que sous l'Ancien Régime, il y avait un État de droit, puisque finalement, le roi devait respecter des règles.
Nos anciens régimes européens n'étaient pas des régimes d'arbitraire ou de tyrannie. Le roi produisait du droit, il avait une certaine liberté vis-à-vis du droit qu'il produisait, mais il était lui-même soumis à du droit, il y avait des procès contre le monarque, il pouvait être condamné, pas porter atteinte à la propriété de ses sujets librement, simplement la conception qu'on avait à l'époque du droit était différente, par exemple elle n'incluait pas les droits fondamentaux, l'idée de droit de l'homme n'était pas là. Donc il y avait les lettres de cachet, mais ça faisait partie du droit. Ce que je veux dire, c'est que la société d'Ancien Régime était très régulée par le droit, et ça depuis le féodalisme.
Oui, mais alors ça veut dire que finalement l'état de droit est une valeur relative qui évolue en même temps que la société. C'est donc dans nos débats quelque chose d'assez piégeux et d'assez flou. Parce que chacun peut avoir sa conception de l'état de droit. Quelqu'un qui est conservateur n'aura pas la même conception de l'état de droit, puisque vous nous dites que ça a un rapport avec le niveau de la liberté et de la sécurité, que quelqu'un qui serait progressiste. Si on n'a pas tous, alors que le droit est le même pour tous, si on n'a pas tous la même notion de ce concept, c'est compliqué.
Le droit, ça permet de figer la décision sociale et les mœurs sociales à un moment donné et de les rendre impératives. Donc il y a certaines strates de droit successives avec des conceptions de l'état de droit successives. Je disais que sous l'Ancien Régime, il n'y avait pas de droit de l'homme. On pourrait dire par exemple que sous l'Antiquité, il n'y avait pas d'homme du tout, parce qu'il n'y avait pas de conception de l'humanité, il n'y avait pas d'individualité. Ça, Hegel l'a dit tout à fait bien. Aujourd'hui, il y a des strates de plus en plus importantes d'exigences qui pèsent sur le droit, avec par exemple l'époque des Lumières. C'est à l'époque des Lumières, avec par exemple Beccaria, qui est imposée cette idée qu'il ne doit pas y avoir de rétroactivité de la loi, qu'il doit y avoir une certaine proportionnalité entre par exemple la sanction pénale et le crime ou l'infraction qui a été commise. Mais si j'étais historien du droit, ce que je ne suis pas, je vous dirais que dès le droit canon du Moyen-Âge, cette idée de proportionnalité était présente. La chose importante, c'est que le droit fige les situations. Il y a un grand sociologue norvégien qui s'appelle John Elster qui a dit que la Constitution, c'est un pre-commitment, c'est un engagement préalable. On est tous un peu liés par ça. On
ne fait une pas sorte tout... de grande règle du jeu.
C'est une grande règle du jeu et tout le monde est lié par elle. Sinon, il y aurait une totale liberté des gens qui nous gouvernent vis-à-vis du droit. C'est précisément ce que l'état de droit est censé empêcher. je dis un dernier mot. On distinguait sous la Troisième République l'état de droit et l'état de police. Tout État fait du droit. Tout État utilise le droit. Ça, c'est l'État de police. Le modèle, c'est la République de Chine populaire aujourd'hui. Elle produit du droit, mais elle le change. L'État le change quand ça lui paraît bon. Dans nos sociétés, on a cette idée que le droit lie même les gouvernants au niveau le plus élevé. C'est l'État de droit par opposition à ce que les Allemands avaient appelé le Polizeistaat, l'État de police.
Raphaël Kampf, est-ce que cette définition assez large vous convient ?
Oui, alors cette définition, elle est déjà utile parce qu'elle permet de contester une idée qui est répandue dans l'espace public et politique où on entend régulièrement des ministres de l'Intérieur ou des responsables politiques expliquer que des phénomènes de délinquance ou des phénomènes de troubles à l'ordre public, comme par exemple, ils vont qualifier ainsi certaines manifestations, sont constitutifs d'atteintes à l'état de droit. C'est une grave erreur de penser ainsi parce que ça laisse penser que l'atteinte à l'état de droit est le résultat du comportement de citoyens et citoyennes, alors même que, on l'a dit depuis le début de cette émission, l'état de droit est quelque chose qui s'impose avant tout à l'État et à ses représentants, et non pas aux citoyens. Donc en fait, il y a un usage galvaudé par certains responsables politiques de cette notion d'état de droit pour justifier des phénomènes de répression plus intense à l'égard de divers phénomènes de violation de la loi pénale, qu'on conteste pas, mais qu'on ne peut pas subsumer sous la catégorie de l'atteinte à l'état de droit. Ça, c'est on peut s'accorder sur, pour exclure, me semble-t-il, ce type de définition de l'état de droit. Maintenant, j'aborde cette idée à un double niveau. Il y a un premier niveau qui est un niveau, on va dire, pratique, dans mon activité d'avocat, où je vais utiliser ce concept pour opposer à l'État et à ses agents, dans le cadre de procédures judiciaires, des comportements qu'ils n'auraient pas dû avoir et qui sont contraires aux normes en vigueur, comme lorsque, par exemple, j'ai plaidé récemment pour un jeune homme qui s'est fait arrêter à proximité d'une manifestation d'opposition à un meeting d'Éric Zemmour. Eh bien, j'ai dit que son interpellation était illégale et le tribunal a été d'accord avec moi. Et donc là, d'une certaine manière, on a fait dire par la justice que un acte réalisé au nom de l'État par un agent de police était contraire à la norme de l'État.
En fait, c'est tout ce qui est abus de droit de la part des détenteurs du pouvoir. Quand les détenteurs du pouvoir vont un peu trop loin, utilisent leur pouvoir ou surutilisent leur pouvoir, là, l'état de droit, selon vous, est écorné.
Voilà. Et donc, on a des situations dans lesquelles nous pouvons faire constater par la justice, de telles violations des règles par les agents de l'État, et donc une violation de l'État de droit. Mais il y a aussi, malheureusement, un grand nombre de situations, qui sont extrêmement nombreuses, dans lesquelles il y a de tels accrochages, mais qui ne peuvent pas être constatés. Et je pense, par exemple, à la question des contrôles d'identité, dont on sait que dans notre pays, ils sont absolument massifs, et dont un grand nombre ont été qualifiés de contrôles d'identité discriminatoires, c'est-à-dire qu'ils devraient ne pas avoir lieu, être illégaux, et la plupart de ces contrôles d'identité ne sont pas examinés par des juges indépendants parce que souvent ils ne donnent lieu à aucune suite, de la même manière que dans le cadre des manifestations, depuis plusieurs années, nous voyons des gens être interpellés et placés en garde à vue avant les manifestations ou sur le chemin des manifestations, et c'est un phénomène tout à fait massif, et des gens qui ne font l'objet d'aucune suite judiciaire, et donc aucun juge indépendant n'a été amené à s'assurer qu'il y a eu ou pas un respect par l'État du droit, de la loi, dans le cadre de ces interpellations massives.
Jusqu'à 19h, nous nous interrogeons sur la notion d'État de droit avec Denis Barranger et Raphaël Kampf.
France Inter, enquête de politique. Thomas Legrand.
Pour illustrer ce que vous nous disiez, c'est-à-dire le fait que ce terme « état de droit » est utilisé souvent à mauvais escient, je vous propose d'écouter ce petit medley, cette petite série d'interventions politiques un peu tous azimuts qui surutilisent le terme « état de droit ».
La France s'honore d'être un état de droit. Le gouvernement comme l'administration n'ont pas à échapper à la loi et au contrôle des juges. Cette discipline fonde tout l'équilibre de nos institutions.
On nous dit que la police n'ose plus aujourd'hui pénétrer dans un certain nombre de quartiers, de villes, de banlieues. La loi de la jungle règne. La France a-t-elle cessé d'être un état de droit ?
L'intention du gouvernement n'est pas de poser la question corse. Sa volonté est d'établir l'état de droit partout, pour tous et jusqu'au bout.
Un état de droit avec sa justice font un travail qui est évidemment le contraire de la violence, de la haine, de l'idéologie, l'islamisme terroriste, l'islamisme politique.
L'état l'état de droit est le contraire du gouvernement des juges, qui constitue une dérive antidémocratique, oligarchique. Les magistrats sont là pour appliquer la loi, pas pour contrecarrer la volonté du peuple.
Quand les Français se prononcent par la voie du référendum, le Conseil constitutionnel ne s'oppose pas à ce que les Français ont décidé. Oui. Mais la source de l'état de droit reste le peuple souverain.
Bon, on a là des exemples avec tous les intervenants, je ne vous donne pas tous les noms, le dernier ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, peut-être est le moins connu, donc je vous donne son nom, mais on a toutes les conceptions possibles, toutes les acceptions que les politiques donnent à l'état de droit, on va les prendre une par une. François Mitterrand, au début, bon, il explique que la France est un état de droit et que ceux qui ont le pouvoir doivent respecter le droit et être limités dans leur pouvoir. C'est la définition que vous nous donniez, c'est la plus classique. On a par exemple Lionel Jospin qui dit « En Corse, le droit doit s'appliquer comme partout ». Donc là, c'est une définition un peu étrange, c'est l'ordre. On confond l'état de droit et l'ordre, ou est-ce que cette définition de l'état de droit, cette utilisation de l'état de droit par Lionel Jospin, vous convient, Denis Barranger ?
Non, elle ne me convient pas nécessairement. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Raphaël Kempf tout à l'heure. L'application du droit aux citoyens, c'est le droit tout court, c'est pas l'état de droit. Quand on parle de l'état de droit, on parle de la qualité du rapport entre le droit et les gouvernants. Bien, quand nos politiques, et ils le font de plus en plus, se déclarent hostiles vis-à-vis de l'état de droit, c'est parce qu'ils ne sont pas contents de l'état du droit, c'est-à-dire d'un certain contenu de la règle de droit. Pourquoi ?
Parce que de l'application.
Ou de l'application, mais surtout de la règle elle-même. C'est-à-dire qu'en réalité, ils rendent le droit responsable de toutes les fautes et de tous les malheurs, et en réalité, de l'ingouvernabilité de nos sociétés. Il y a trop de criminalité, c'est la faute du droit, parce que le droit empêche un certain nombre de choses, par exemple en matière de procédure pénale, etc., etc. Donc c'est un moyen pour des politiques, souvent populistes, de se redonner de la marge, en disant en réalité, si à moi on donne le volant et le gouvernail, ça va changer parce que je vais changer le contenu du droit. Je pense que ça, c'est ce qu'a dit M. Retailleau.
À la fin de ce petit medley.
Voilà, ouais. À la fin de ce petit medley, en tout cas, c'est le propos qu'on lui a attribué. C'est intéressant parce que ça met dans l'état de droit des choses qui n'y sont pas. Beaucoup de qualités de notre système démocratique ne sont pas dans la boîte état de droit. La démocratie elle-même, c'est pas la même chose que l'état de droit. Il y avait des états de droit non démocratiques, je l'ai dit, les anciens régimes français, c'était des états de droit, mais c'était pas du tout des démocraties. Les démocraties qui sont pas du tout des états de droit. La démocratie populaire, c'est pas réellement des états de droit. Mais ce qui est arrivé progressivement, c'est qu'il y a eu deux phases. Et de Mitterrand à Retailleau, qu'est-ce qui s'est passé ? Mitterrand, c'est l'adhésion de la gauche vers le milieu des années 80 à l'idée d'état de droit, après un grand rapport de Blandine Barrett-Kriegel, la philosophe politique, qui dit à la gauche, vous devriez vous détacher de la critique marxiste de l'état de droit, de l'hostilité aux libertés formelles, etc., etc., et vous devriez adhérer à l'idée de droits fondamentaux. C'est le grand tournant que prend la gauche, de l'adhésion à l'idée d'état de droit, aux droits fondamentaux, et à la justice constitutionnelle. C'est le moment du haut de la vague, parce que finalement, tout le monde est à peu près d'accord là-dessus, ça fait un point commun libéral, un plus petit commun dénominateur libéral. Aujourd'hui, on est au moment le plus bas possible de la vague.
On est dans une pente illibérale.
On est dans une pente illibérale, parce que ce qui se passe, c'est que les populistes prétendent être capables de regouverner nos sociétés qui sont devenues ingouvernables, en disant, moi je suis un homme fort ou une femme forte, tout ça va bien se passer.
Vous dites le point le plus bas, je crains qu'on puisse descendre encore, hein. Les États-Unis nous le montrent.
Ah, alors, mais ça, on pourra parler quand on voudrait des États-Unis. Tout à fait. Mais pour rester en France, je pense qu'il faut quand même être un tout petit peu nuancé. Il y a, dans tout ce que fait le populisme, il y a un petit noyau de vérité qui est transformé pour en faire quelque chose de malsain ou de malhonnête. Ce qui est de malsain et de malhonnête, c'est d'attaquer tous les traités internationaux, tous les droits fondamentaux, et de dire, si on met ça à la poubelle, il y aura de la sécurité en France. Moi, j'attends de voir, hein, très respectueusement, j'attends de voir que la suppression des libertés permettra qu'il y ait plus de sécurité ou que ce soit. C'est deux choses assez différentes, en réalité. Mais le petit noyau de vérité, c'est que si on prend, par exemple, les droits fondamentaux, comment est-ce qu'ils sont arrivés en France ? Pas dans la Constitution de 58, ça n'intéressait pas le général de Gaulle. C'est arrivé via le Conseil constitutionnel et via les traités internationaux. Le Conseil constitutionnel s'est donné une marge de liberté considérable, motive très peu ses décisions, fait un travail qui est parfois quand même un peu dysfonctionnel, une jurisprudence qui mérite quand même l'examen, même si on est libéral et démocrate soi-même.
Et on prendra un cas dans quelques minutes.
On prendra un cas. Les traités internationaux, ils ont imposé en France probablement beaucoup de libertés et de droits qui étaient nécessaires, mais leur caractère démocratique est quand même... Il y a quand même quelque chose à dire là-dessus. Comment ça se passe, un traité international ? C'est l'exécutif qui signe un traité, et qui fait passer une loi de ratification au Parlement, le Parlement regarde de l'autre côté, il peut même pas l'amender. Et on en a eu des dizaines et des dizaines. Ça, je pense que c'est le petit noyau du problème démocratique.
Là, l'État de droit vous donnez un argument, par exemple, à ceux qui disent que la Cour européenne des droits de l'homme grignote notre État de droit et notre liberté.
J'ai pas parlé de la Cour européenne. J'ai parlé de la manière, j'ai parlé du tuyau par lequel on a fait passer les droits dans notre pays.
D'accord.
Il fallait probablement nous mettre à jour de ce point de vue-là, c'était nécessaire. Mais quand on dit qu'il y a un problème de démocratie, malheureusement, c'est pas totalement inexact.
Je dis ça parce que des règles de liberté ont été introduites.
Je dis cela en ayant aucune sympathie vis-à-vis du populisme.
Oui. Non, mais pour qu'on comprenne bien, Denis Barranger, vous expliquez que des règles de liberté sur lesquelles nous vivons ont été introduites parfois par des biais qui ne sont pas démocratiques.
Par des procédures qui mécaniquement n'ont pas permis un regard parlementaire approfondi. Je ne juge pas le fond du contenu de ces droits. Je ne sais pas, moi, il y a le pacte civil de New York, il y a la CEDH, ça a des grandes qualités, mais la manière dont ça a été fait prête le flanc à une critique. Ce que vont faire après les populismes, c'est de jouer là-dessus pour dire il faut tout mettre à la poubelle parce que ça n'a pas été fait démocratiquement. Ça, on ne peut pas être d'accord avec ça. Mais voilà, ça, c'est un point que je voulais...
Oui, mais quand on repasse par la démocratie directe, comme la tendance est à vouloir plus de sécurité, en tout cas, les populistes disent qu'il faut plus de sécurité et recueillent une certaine adhésion, on peut faire reculer l'État de droit par la démocratie. Donc c'est compliqué,
absolument.
Votre histoire.
Mais la démocratie elle-même n'est pas parée de toutes les vertus. Et Montesquieu disait que la vertu elle-même avait besoin de limites. La démocratie permet de contrôler un certain nombre de choses dans le fonctionnement de l'État. Le droit est là aussi parfois pour dire à la démocratie qu'elle ne peut pas tout faire. C'est des phénomènes d'équilibre, c'est des rapports d'équilibre.
Raphaël Kampf, quand vous entendez le petit medley qu'on vient d'entendre et qui illustre ce que vous nous disiez avant, c'est-à-dire que l'utilisation, la surutilisation de la notion d'État de droit pose problème, comment vous réagissez ? Notamment à tous ceux qui disent que finalement l'État de droit n'est pas respecté quand l'ordre n'est pas respecté. C'est la confusion principale.
Oui, c'est une confusion qui est terrible parce qu'elle nous empêche de penser, d'agir et qu'elle est bien en phase avec ce que Denis Barranger disait à l'instant sur le fait que nous sommes dans finalement une situation d'illibéralisme. Et c'est vrai que j'ai aussi...
Alors nous avons une émission que vous pouvez podcaster sur, puisque notre émission traite des ismes, sur l'illibéralisme. C'était une petite parenthèse. Vous pouvez reprendre, Raphaël Kampf.
Merci. Et c'est vrai que dans les années 70 et 80, la gauche a été un mouvement qui a porté des idées libérales. Et je pense au rapport dans les années 70 fait par le comité Liberté avec Robert Badinter et dans la perspective de l'élection de François Mitterrand, qui était un texte tout à fait fascinant sur la nécessité, par exemple, d'interdire, de supprimer les juridictions d'exception. Et une grande part de ces propositions ont été mises en œuvre après 1980, où pour la première et peut-être la dernière fois dans notre histoire récente, dans notre histoire parlementaire et politique récente, nous avons eu des lois de liberté qui revenaient sur des restrictions qui avaient été adoptées auparavant par la droite, avec notamment la fameuse loi Sécurité et Liberté, adoptée à la toute fin du mandat de Valéry Giscard d'Estaing. Donc pour moi, les années 80-82 sont des années importante parce qu'on voit le pouvoir parlementaire et politique adopter des textes pour limiter les contrôles d'identité, c'est-à-dire limiter le pouvoir de la police de contrôler l'identité des gens, des textes pour supprimer les juridictions d'exception, des choses dont nous sommes aujourd'hui à mille lieues. Et dans le petit medley que vous nous avez proposé, on entend Manuel Valls parler de l'état de droit et dire l'état de droit, c'est le contraire de l'idéologie islamiste. Et je pense que cette proposition qu'il fait est tout à fait problématique parce qu'elle aboutit finalement à mettre sur le même plan de discursivité ou le même plan argumentatif d'un côté l'état de droit de nos sociétés et de l'autre l'idéologie islamiste, comme s'il pouvait y avoir un débat ou une comparaison possible pour dire l'une est le contraire de l'autre, alors qu'on ne devrait même pas rentrer dans ce débat entre
là,
deux choses
Manuel
qui sont
Valls,
radicalement différentes.
Manuel Valls dit l'état de droit c'est la démocratie en gros.
Oui, mais c'est tout à fait insuffisant, et surtout parce qu'il veut, il est dans un moment où il veut adopter des lois antiterroristes toujours plus sévères, et il faut rappeler, parce que ça n'a pas été fait du moins à l'époque, que la force et la gloire de l'État de droit, c'est d'accepter que des personnes considérées comme des adversaires radicaux, on va dire des terroristes islamistes, sont détenteurs de droits fondamentaux. Et que si nous souhaitons les poursuivre, on doit effectivement respecter des droits fondamentaux. Et dans la lutte contre le terrorisme depuis une dizaine d'années, j'ai pu observer un certain nombre de situations dans lesquelles, finalement, l'état de droit français faisait le choix de ne plus respecter certaines règles au nom de la lutte contre le terrorisme.
Raphaël Kampf. Alors là, on en arrive à une autre question, c'est le fameux équilibre entre liberté et sécurité. On a besoin de sécurité, on a besoin de liberté. Les lois, les normes qui sont faites pour garantir notre sécurité sont souvent établies aux dépens de nos libertés. Est-ce que cet équilibre liberté-sécurité existe bien ? Est-ce qu'il est pertinent ?
Il n'y a pas, selon moi, de logique de vase communicant. Ce n'est pas parce qu'on enlève de la sécurité qu'on a plus de liberté, et inversement. Et je préciserai votre question, si vous me le permettez, en indiquant que ce sont des lois qui sont présentées comme devant garantir notre sécurité, qui portent atteinte à nos libertés. Mais je ne pense pas que de telles lois ont pour effet d'assurer notre sécurité. Prenons un exemple extrêmement simple. Sur la question de la lutte contre le terrorisme, depuis les années 80, on a dit qu'il fallait que les gardes à vue durent plus longtemps, qu'il fallait pouvoir garder par 4 jours en garde à vue, privés de liberté, des personnes pour lutter contre le terrorisme. En quoi est-ce que cette privation de liberté plus longue a pour effet de permettre de lutter contre le terrorisme.
Ah, peut-être que pendant 4 jours, on peut obtenir plus de renseignements pour pouvoir garantir
moins
d'attentats et donc plus de liberté.
Je veux dire, non, parce que si on fait une garde à vue de 24 heures et qu'au bout de 24 heures, on présente la personne à un juge, cette personne peut toujours continuer à être privée de liberté, mais elle peut. Il y a un juge qui a examiné la situation et cette personne peut continuer à être interrogée dans d'autres cadres, etc. Donc en fait, quand on fait ça, on ne cherche pas à garantir plus de sécurité, on cherche juste à afficher une volonté de garantir cette sécurité qui, en réalité, a simplement pour effet de limiter des droits fondamentaux. Et dans la lutte contre le terrorisme, par exemple, on observe un phénomène depuis plusieurs années qui consiste à chaque fois qu'une personne est interpellée pour des faits de terrorisme, on va interpeller également son entourage, ses parents, ses frères, ses sœurs, parfois ses cousins, qui vont également être placés en garde à vue. Et généralement, cela n'aura strictement aucune suite. Et donc, il n'y aura strictement aucun contrôle d'un juge indépendant sur ces privations de liberté qui sont faites au nom de la lutte contre le terrorisme à l'égard de personnes à qui on n'a rien à reprocher.
Et puis, il y a aussi la définition dans la lutte antiterrorisme du terrorisme même, où on voit que, par exemple, des écologistes, on a parlé d'éco-terrorisme, pouvaient être assimilés et soumis à des règles autoritaires antiterroristes.
Ben, lorsqu'on regarde les travaux parlementaires en 1986, lors de l'adoption de la première loi antiterroriste en France, les parlementaires eux-mêmes disent qu'ils ne savent pas définir le terrorisme. Parce que, disait le garde des Sceaux à l'époque, le terrorisme, c'est l'évidence, chacun sait de quoi on parle. Et en réalité, ça montre bien que dès le départ, le terrorisme est un objet tout à fait malléable et liquide, qui permet de saisir tout un tas de situations pour garantir une répression qui s'est exercée notamment à l'endroit d'opposants politiques, d'adversaires politiques ou désignés comme tels, comme notamment des militants et militantes écologistes de Sainte-Soline, qui ont pu être qualifiés d'éco-terroristes par le ministre de l'Intérieur. Mais on sait qu'un certain nombre de militants politiques, d'extrême gauche ou kurdes sont également qualifiés de terroristes alors qu'ils ne devraient pas l'être. Donc la malléabilité et la liquidité de l'absence de définition juridique claire du terrorisme donne une porte ouverte à de nombreux abus de répression.
Denis Barranger, est-ce que vous diriez, comme Raphaël Kampf, que depuis qu'on a durci la législation antiterroriste, finalement nous rentrons dans une pente qui met à mal l'état de droit ?
Je serais bien en peine de le dire, je ne suis pas expert du terrorisme. Ce que je pense, c'est que l'entrée en crise de nos sociétés via des phénomènes comme le terrorisme ont appelé une réaction des autorités et une réaction de ce qu'on appelle la réponse pénale. Et vous aviez dit qu'il y avait un curseur, et je suis assez d'accord là-dessus. Il était nécessaire d'adapter la réponse pénale dans certaines circonstances aux phénomènes très multiformes et difficiles à cerner qu'était le terrorisme. Je prends l'exemple de la création de l'infraction d'association de malfaiteurs terroristes. Il y avait une demande, ça semble répondre à un besoin, ça peut se discuter, il y a discussion là-dessus qui est possible, mais c'est une adaptation de la réponse pénale à des phénomènes difficilement préhensibles. Bien. Ça, c'est une chose. Ce que je trouve très préoccupant de mon point de vue, et je me situe dans une perspective un peu plus large et peut-être un peu plus abstraite que Raphaël Kempf, enfin, moi je ne suis pas un praticien du droit comme lui, même s'il pense le droit également, ce que je constate, c'est qu'on avait toujours, l'État a toujours limité les libertés. Il y a toujours eu, il n'y a jamais eu de liberté absolue. Il n'y a jamais eu d'absolutisme des libertés. Ça, il n'y a pas de société possible avec ça. Mais on avait des situations où on créait de l'exception. on avait ce qu'on appelle l'état d'exception. Qu'est-ce que c'est que l'état d'exception en deux mots ? Moi, sur mon ordinateur, j'ai une fenêtre, et si j'appuie sur un bouton, il y a une autre fenêtre qui s'allume et ça cache la précédente. L'état d'exception, c'était du droit. Ce n'était pas la cessation du droit, c'était un droit bis. Plus restrictif, par exemple, il y avait les lois d'état d'urgence. Qu'est-ce qu'on faisait avec l'état d'urgence ? C'est que sur une zone particulière et pendant un temps particulier, on augmentait les pouvoirs de la police dite administrative. C'était un droit spécial, moins favorable aux libertés, qui permettait, espérait-on, d'ailleurs ça n'a pas toujours marché, mais de résoudre un problème de sécurité. Ce qui est arrivé avec la permanence des crises et de toutes les sortes de crises, la crise sanitaire, la crise sécuritaire, le terrorisme, tout, les problèmes écologiques, c'est que maintenant, les lois ont fait en sorte qu'on soit toujours en état d'urgence, toujours en état d'exception. En réalité, on a diffusé les procédés de l'état d'exception dans la vie quotidienne des
États. On a fait rentrer dans le droit commun ce qui devait être l'exception.
On a fait en sorte que les deux fenêtres de l'ordinateur se rejoignent et qu'on ne sache plus quand est-ce qu'on est en état normal et en état d'exception. Donc c'est conceptuellement un problème, et puis pour les libertés, ça en est un. Est-ce qu'il y a une meilleure réponse pénale, sanitaire, écologique, la question est posée. Mais je pense qu'en réalité, il y a une certaine facilité des producteurs de normes dans nos sociétés à se dire, ben, on va durcir le ton, on va mettre le curseur plus fort dans le sens de la limitation des libertés, on va espérer qu'on gouverne mieux. C'est toujours remis en cause, c'est quotidiennement remis en cause.
Nous sommes toujours avec Denis Barranger, professeur de droit public à l'université Panthéon-Assas, et Raphaël Kempf, avocat pénaliste au barreau de Paris. Lola Young, Wish You Were Dead, c'est sympa, sur France Inter.
France Inter, enquête de politique. Thomas Legrand.
Alors, il y a un peu plus d'un an, la loi immigration arrive devant le Conseil constitutionnel et ce texte voté par le Parlement, c'est un texte issu d'un compromis entre la majorité d'alors et la droite LR. Il contenait manifestement des aspects inconstitutionnels et le gouvernement le savait, mais il a préféré, pour obtenir une majorité au Parlement, laisser le texte tel quel, quitte à ce que le Conseil constitutionnel censure ce qui devait l'être, ce que le Conseil fit. Et Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes et prétendant putatif à la présidentielle, avait déclaré par écrit que cette censure partielle de la loi qui durcissait les règles d'immigration en France était, je cite, un coup d'État de droit. Voilà un exemple parfait de l'utilisation, peut-être de la surutilisation, vous nous le direz, de la notion d'État de droit dans le débat politique. L'idée est de dire que l'État de droit va à l'encontre de la volonté populaire et donc est une entrave à la démocratie. Cette vision des choses, propre à l'extrême droite, divise la droite la plus classique.
J'ai un profond désaccord avec Laurent Wauquiez sur la conception de la République, sur la conception de l'État de droit et sur le respect de nos institutions.
Voilà, ça c'était donc Xavier Bertrand, ex-LR, président de la région des Hauts-de-France, qui n'est pas d'accord avec la déclaration par écrit de Laurent Wauquiez. Raphaël Kampff, une autre utilisation de l'État de droit qui peut vous paraître peut-être problématique, c'est finalement l'État de droit grignote la démocratie quand le résultat de la démocratie demande plus de sécurité et plus de pouvoir, puisqu'on a dit que l'état de droit c'était ce qui limitait le pouvoir de ceux qui ont le pouvoir. Quand le peuple considère qu'il y a une sorte d'impuissance publique et qu'il veut donner plus de pouvoir, notamment coercitif, à l'exécutif, eh bien c'est la démocratie. Est-ce que l'état de droit est grignoté? Qui a raison entre Laurent Wauquiez et Xavier Bertrand? Je vous pose la question, j'imagine un peu la réponse, allez-y.
Alors, l'état de droit et la démocratie, on sait aussi que c'est la protection des minorités, ou du moins de ceux et celles qui n'ont pas la majorité dans le système parlementaire. Cette question de la loi immigration est évidemment intéressante parce que si on se penche sur la décision du Conseil constitutionnel, on constate que la censure a eu lieu pour l'essentiel pour des raisons, on va dire, procédurales, à savoir la contestation
de cavaliers
législatifs. Et malheureusement, il n'y a
aucun... Juste cavalier législatif, on explique. Dans une loi, quand on discute d'une loi, par amendement gouvernemental ou parlementaire, on n'a pas le droit d'instiller d'autres notions que la notion principale de droit. On n'a pas le droit de faire voter des règles ou des normes qui n'ont pas de rapport avec l'objet principal du droit. Et ça, c'est un cavalier législatif, c'est interdit et c'est censuré par le Conseil constitutionnel.
Voilà, mais force est de constater que dans cette décision, le Conseil constitutionnel n'a proposé aucune avancée significative pour les droits des étrangers et des étrangères qui sont quand même les premiers touchés par la loi immigration, qui était une loi qui a été qualifiée par de nombreux universitaires et également par moi, de lois xénophobes, en raison notamment de la préférence nationale qu'elle instaurait dans l'accès à certaines aides sociales, qui est quelque chose qui vient du programme de l'extrême droite et qui a été voté par la majorité. Ce qui est d'ailleurs très surprenant dans...
Et c'est pas parce que ça vient d'un parti que vous n'aimez pas que ce n'est pas du droit. Ça a été voté.
Non, mais ça n'empêche que ça reste xénophobe et que ça reste une situation que je dénonce très fermement. Enfin voilà, c'est pas uniquement parce que ça vient de ce parti. Et d'ailleurs, ça a été voté également par d'autres partis considérés comme n'étant pas des partis d'extrême droite. Dont acte. Je pense qu'on a une réflexion qui a commencé à être faite par Denis Barranger sur l'état d'exception. Et si vous me le permettez, je souhaiterais en dire un mot parce que la question de la dialectique entre l'état de droit et l'état d'exception est effectivement une question très complexe. Et on sait que au moment de la proclamation de l'état d'urgence après les attentats du 13 novembre 2015, Bernard Cazeneuve, à l'époque ministre de l'Intérieur, s'était notamment justifié en disant « Mais l'état d'urgence, c'est de l'état de droit. » Parce qu'il y a effectivement des procédures, des formelles, on peut accéder à un juge dans certaines conditions, etc., etc. C'est encadré par des textes. Néanmoins, je continue à penser qu'on est dans un état d'exception et il ne faut pas oublier que l'état d'urgence, initialement, est une loi qui a été créée en 1955 sous la 4e République par un pouvoir qui voulait réprimer les menées indépendantistes en Algérie, et à l'époque, le gouvernement, la 4e République, ne souhaitait pas proclamer l'état de siège, qui était un état d'exception déjà prévu par les textes depuis le 19e siècle, mais proclamer l'état de siège sous la 4e République aurait été reconnaître qu'on était en guerre avec l'Algérie, et il n'était pas question de reconnaître une situation de guerre.
Donc pour vous, il ne peut pas y avoir d'état d'exception dans un état de droit. On ne peut pas mettre quelques soupapes, ouvrir quelques fenêtres, comme disait Denis Barranger, temporaires pour une situation précise.
Je pense que les personnes attachées aux droits et aux libertés ont pour mission notamment d'identifier ces états d'exception qui ne sont pas acceptables parce qu'elles donnent un pouvoir exorbitant aux autorités publiques, aux préfets par exemple pendant la guerre d'Algérie avec l'état d'urgence, ou au ministre de l'Intérieur. Dans le cadre des pouvoirs spéciaux utilisés en Algérie, je tiens à le dire, il y a quand même eu 14 avocats du barreau d'Alger qui ont été arrêtés et enfermés dans un camp pendant presque 2 années parce qu'ils défendaient des militants et militantes indépendantistes du Front de Libération Nationale algérien. Donc on voit comment des textes qui ont toutes les apparences du droit, parce que ce sont des textes qui sont adoptés formellement, etc., peuvent avoir des effets qui sont absolument inacceptable, au point que des avocats soient enfermés et ne puissent pas exercer leur métier. Donc, et c'est cet état d'urgence qui a été réactivé après les attentats
donc,
du 13 novembre 2015.
Donc si je résume, nous avons deux opinions un peu différentes. Pour Denis Barranger, le problème de l'exception, des lois d'exception, c'est pas tellement qu'elles soient des lois d'exception, c'est que finalement elles sont intégrées dans le droit commun la plupart du temps et que dans l'exception il y a l'idée qu'elles sont limitées dans le temps et qu'en réalité elles ne sont pas limitées dans le temps. Et pour Raphaël Kampf, la loi d'exception en elle-même est porteuse d'atteinte à l'état de droit. Est-ce que, en résumant vos opinions, j'ai raison ou pas, Denis Barranger ?
Est-ce que je peux revenir sur la loi immigration ? Vous me permettez
bien
de
sûr,
le faire ?
Bien sûr, vous en prie.
D'abord, elle a été votée d'une manière très étrange. Hein. Beaucoup de gens ne voulaient pas à l'Assemblée nationale, y compris le Parti Renaissance et y compris M. Darmanin. M. Darmanin est arrivé à l'Assemblée nationale en commission des lois en voulant une loi qui était beaucoup plus mesurée, c'était une sorte d'en même temps macroniste, c'était pas du tout la loi qui a été votée. Il s'est trouvé que les Républicains, et notamment les Républicains au Sénat, ont forcé un texte de loi dont Renaissance...
Notamment M. Retailleau.
Notamment M. Retailleau, ont forcé, en commission mixte paritaire, un texte dont personne ne voulait, parce qu'il y avait l'épée de Damoclès d'un vote de défiance du reste de l'Assemblée nationale sur le gouvernement. Donc le gouvernement a dû céder sur une loi qui n'était pas la sienne, qui était celle des Républicains, qui sont à partir...
Personne ne voulait, mais enfin une majorité l'a votée quand même.
Une majorité l'a votée, parce que sinon, c'était la défaite du gouvernement dans son ensemble, et que d'autre part, le Parti Renaissance a été loyal vis-à-vis du gouvernement. Mais ce n'était pas le texte du gouvernement lui-même, il a cédé en race campagne. Donc démocratiquement, ça fait partie d'un ensemble de lois qui posent problème à mes yeux, de cette époque de majorité relative. Ça a commencé avec la loi retraite, et je ne dirais pas que ça s'est terminé avec la loi immigration, mais ça a été un des moments forts. C'est une époque où le gouvernement a fait la loi d'une manière démocratiquement qui pose question. Ça, c'est une première chose. Donc déjà, dire que c'est un effet de la démocratie, cette loi, c'est l'effet d'une démocratie qui est en mauvaise santé, si vous voulez. Je ne parle même pas de son contenu.
Est-ce que, en disant ça, vous justifiez la censure du Conseil constitutionnel ?
Ça, c'est le deuxième.
Ou non, parce que j'ai cru comprendre que vous n'étiez pas tout à fait d'accord avec cette décision non plus.
J'ai beaucoup de mal à faire un éloge systématique du Conseil constitutionnel, parce que je trouve sa jurisprudence problématique sur la méthode. Ce sont des décisions qui sont peu motivées, ce sont des jurisprudences qui sont changeantes, ce sont des qualifications des libertés qui mutent, et ça je ne comprends pas très bien pourquoi. Et je dis, comme un juge américain, que la liberté n'a pas de refuge dans une jurisprudence qui hésite et qui doute. Donc j'ai beaucoup de... Si vous voulez, je ne suis pas hostile au contrôle de constitutionnalité, j'ai du respect pour l'institution, le problème n'est pas là, je ne veux pas y mettre le feu. Je trouve simplement qu'il y a un côté dysfonctionnel dans le fonctionnement actuel d'une jurisprudence constitutionnelle. Mais justement, c'est la deuxième dimension de la discussion. C'est que moi, j'ai discuté après avec des...
Vous n'allez pas être nommé membre du Conseil constitutionnel.
Je ne suis pas candidat. Et vous savez, actuellement,
les
professeurs...
Vous avez des qualifications et l'âge, mais malheureusement, parce que vous avez dit, vous êtes mal barré.
Je n'y suis pas candidat, et de toute façon, je ne voudrais pas être dans une institution qui ferait un travail qui, moi, ne me convient pas, je le dis avec le plus grand respect pour les institutions de la République. Mais il faudra un jour qu'il y ait une discussion sérieuse et posée, et pas populiste et pas extrémiste, sur le travail d'un certain nombre de nos institutions. Et moi, je ne peux pas faire un éloge permanent du Conseil constitutionnel comme beaucoup de mes collègues. Voilà, ça c'est un point, et je ne suis pas le seul à penser ça. Mais regardons justement ce qu'a fait le Conseil constitutionnel, à la fois dans la loi retraite, ce qui est un autre débat, et dans la loi immigration. Il a fait ce que vous avez dit et ce qu'a rappelé Raphaël Kempf. C'est-à-dire qu'il a sanctionné sur des questions de forme. Il n'est pas rentré dans les questions de liberté. Moi, j'ai discuté avec des députés de cette question-là. Et les députés m'ont dit, maintenant, quand on va au Conseil constitutionnel pour essayer de faire changer sa jurisprudence, on sait très bien que sur les questions de méthode ne l'intéressent pas, il veut être un protecteur des libertés, mais un garant du fonctionnement des institutions, ça ne l'intéresse plus tellement. Moi, je trouve qu'il a tort, parce qu'en réalité, moi, je ne suis pas un spécialiste de liberté publique, comme l'est Raphaël Kempf, mais quand je regarde le fonctionnement constitutionnel, de la manière dont on a voté ces lois, moi, c'est ça qui me pose fondamentalement problème, la multiplication des 49.3, des procédures de parlementarisation rationalisées, etc., etc. Donc, en réalité, cette loi immigration, même en regardant pas son contenu, ce qui n'est pas ma compétence, on constate qu'elle pose un problème démocratique et qu'elle pose un problème de contrôle de sa constitutionnalité. C'est une bonne illustration des difficultés dans lesquelles on est. Est-ce qu'elle résoudra le problème de l'immigration ? C'est la énième loi sur l'immigration et sur l'asile. Malheureusement, si je puis dire, j'en suis pas si certain que ça.
Mais on parle d'en faire une nouvelle sans avoir encore signé les décrets d'application de la dernière. Raphaël Kempf, quand vous entendez, notamment, c'était dans notre petit medley de tout à l'heure, le dernier propos, ou l'avant-dernier, celui de Marine Le Pen, l'état de droit va à l'encontre de la volonté populaire. Et c'est vrai qu'on a l'impression, en tout cas à regarder les résultats des élections dans tous les pays de démocratie libérale, en Europe, aux États-Unis, on a l'impression que le peuple veut plus de sécurité. Est-ce que l'état de droit va à l'encontre de la volonté populaire ?
Alors moi, je suis bien en peine de dire ce qu'est la volonté populaire. Je ne pense pas qu'on puisse dire comme
ça. Le résultat des élections nous le donne. Hein.
Le peuple veut plus de sécurité. Ce qui est sûr, c'est que nous voyons l'émergence, effectivement, la prégnance majeure de discours discriminatoires, racistes, qui désignent les étrangers comme un problème, qui désignent certaines catégories de la population comme un problème, qui disent que pour lutter contre la délinquance, il faut construire de plus de prisons, il faut plus réprimer, etc. Donc ça, c'est un discours qui est très présent dans l'espace public et qui, moi, m'attriste profondément parce que je sais que l'état de droit et la démocratie, c'est aussi une situation dans laquelle on respecte les droits de ceux qui, a priori, n'ont pas de droits, comme les étrangers dont je rappelle que, malheureusement, ils n'ont pas le droit de vote. Alors même que c'est une promesse de la gauche depuis de très longues dates que les étrangers qui résident régulièrement en France puissent participer aux élections. Et moi, je pense que c'est quelque chose d'absolument capital. Et je continue à me battre pour cette question pour que, justement, les responsables politiques prennent en considération aussi les intérêts et les droits des personnes étrangères qui vivent sur le territoire national. C'est vrai que je partage une critique qui vient d'être faite par Denis Barranger sur l'institution du Conseil constitutionnel devant laquelle je me rends assez régulièrement comme avocat pour plaider ce qu'on appelle des questions prioritaires de constitutionnalité qui est un mécanisme qui a été créé d'ailleurs sous la présidence de Nicolas Sarkozy.
Oui, 2008.
Voilà, permettant à toute personne qui a un procès devant un tribunal en France de contester la conformité à la Constitution et aux droits fondamentaux d'une loi qui s'applique à son cas. Et c'est vrai que moi j'y suis allé à plusieurs reprises, notamment sur l'état d'urgence, où on a gagné sur une disposition de l'état d'urgence, et j'y suis retourné récemment sur un texte qui, selon moi, portait atteinte à la liberté d'expression, en ce que cette loi, qui est un texte issu de la loi séparatisme adoptée en août 2021, permettait de juger en comparution immédiate, c'est-à-dire devant le tribunal correctionnel de façon extrêmement urgente, certains délits de parole, certains délits d'opinion. Et donc, je considérais que c'était contraire à une tradition républicaine française. Et donc, nous sommes arrivés devant le Conseil constitutionnel avec une réflexion historique depuis les débuts de la République, dans la Troisième République, où il y a un grand nombre de grands textes.
La loi 1881.
La loi 1881. Il y a un texte de Léon Blum qui est absolument majeur en 1895 à peu près sur ces questions-là, sur ces questions de liberté d'expression. On est arrivé avec toute cette tradition-là devant le Conseil constitutionnel qui, finalement, n'est pas rentré dans le débat. Il nous a rejeté nos argumentaires de façon extrêmement lapidaire, hein, sans motivation. Et c'est dommage parce qu'on aurait aimé avoir vraiment un débat de fond historique parce qu'on venait avec quelque chose, me semble-t-il, de solide. On aurait pu me dire que j'avais tort, mais qu'on me dise pourquoi et qu'on ait un véritable débat. Et là, on n'a même pas eu ce débat. On nous a dit cette loi nouvelle ne pose pas de difficultés, il n'y a pas de problème avec la liberté d'expression, donc circuler, il n'y a rien à voir.
Je reviens vers vous pour conclure, Denis Barranger, sur cette question opposition entre l'état de droit et la volonté populaire.
Nous avons vécu un âge d'or de nos sociétés avec des démocraties qui étaient libérales, respectueuses de manière croissante des droits et libertés, et qui étaient juridicisées avec un juge qui faisait un travail de plus en plus important. Cet heureux temps n'est plus. Regardez l'élection de M. Trump.
Il n'est plus du fait des peuples.
Il l'est plus parce que via la démocratie n'est
ou
pas
du populisme.
La démocratie est une nécessité, mais ça n'est pas la vertu morale incarnée. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. La démocratie. On a réussi, comme l'a dit M. Biden en quittant le pouvoir, à convaincre les peuples que des choses fausses étaient la vérité, qu'il y avait un relativisme de la vérité, que la violence politique était légitime, que les élites faisaient tout un tas de choses qui étaient négatives vis-à-vis du peuple. Pour le moment, c'est un logiciel qui fonctionne. Que fait M. Trump ? Il a un pédigré démocratique parfait. Eh bien, il va mettre à bas la Constitution américaine si on lui en laisse le pouvoir, et s'il n'y a pas des nouveaux contre-pouvoirs qui émergent. C'est ça, le trumpisme. Voilà.
Eh bien, je vous remercie, messieurs. J'espère que maintenant, quand vous écouterez, chers auditeurs, quand vous entendrez nos politiques parler d'état de droit, vous serez déterminé à quel point ce terme est surutilisé, souvent mal utilisé. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast, comme toutes les émissions d'Enquête de politique. Enquête de politique est réalisée par Christophe Imbert, archive sonore Franck Olivard, à la technique ce soir Élise Christophe et Gaspard Guy Bourget, et à la programmation musicale Thierry Dupin. Je vous retrouve dimanche, donc après le journal de 18h, dimanche prochain. D'ici là, n'oubliez pas, si vous ne vous intéressez pas à la politique, c'est la politique qui s'intéressera à vous.